Bonjour à toutes et à tous. Je vais revenir aujourd'hui sur le même sujet que je traite depuis quelques semaines, c'est-à-dire les formes des civilisations et la manière dont celles-ci changent, évoluent dans l'histoire. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, mon interprétation est à l'envers de celle que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de celle qui serait une espèce de progrès par étape, d'ailleurs une progression par étape et une succession historique de moments. D'ailleurs, on a deux interprétations, une qui conduit vers une société parfaite, que l'on appellerait le progrès, et une autre qui conduirait vers la mort des civilisations, qu'on appellerait le déclin. Donc, la position que je prends, évidemment, c'est de dire que, en fait, d'une part, les civilisations ne meurent jamais parce que elles renaissent sous une autre forme. Et donc, ce fameux adage sur les civilisations sont mortelles me semble une erreur. La preuve, c'est que les civilisations passées de la Grèce et de Rome, par exemple, pour parler de la continuité historique qui nous concerne, ne sont pas mortes. On les a dans notre langage, dans notre langue, qui est le français, et puis toutes les langues qui sont issues du latin et qui nous structurent la pensée, mais également par un grand nombre d'expressions, de références. Par exemple, quand on parle du président en tant que Jupiter, là aussi, ça fait partie de cette civilisation gréco-romaine, et les exemples ne manquent pas. Alors, que ce soit à travers la religion, ou à travers la politique, à la littérature, où on a des relecture des mêmes textes, sans parler de la philosophie, mais nous avons dans notre quotidien, comme je vous disais, un grand nombre de références à civilisations qui ne sont donc pas mortes. Simplement, elles existent d'une manière non visible, en tout cas dans une sorte d'inconscient collectif, inconscient plus ou moins affiché, mais en tout cas, il y a le visible et l'invisible qui font que cette succession se passe d'une période à une autre et en fait, quelque part, ne fait que s'empiler et constitue nos mémoires qui se reconstituent en même temps. Alors, vous pouvez me poser la question, par exemple, de où en sommes-nous de ce passage d'une civilisation à une autre, et puis dans quelle civilisation sommes-nous? Alors, c'est bien cela qui est la chose la plus, on peut dire, d'actualité de ce positionnement. Mon explication, peut-être qu'il y en veut d'autres, est que ce phénomène nous apparaît d'une manière probablement non visible à la fin du XIXe siècle pour différentes raisons. Et le XXe siècle est celui des grandes fureurs et des grandes guerres mondiales. Et quelque part, cette alternance entre des conflits extrêmes et des périodes de paix fait que le 21e siècle, c'est-à-dire le siècle dans lequel nous vivons aujourd'hui, on a cette parenthèse violente et qui nous empêche quelque part la compréhension de ce passage. Donc, mon interprétation, c'est que le 19e siècle, c'est la fin d'une période, mais une fin qui se produit d'une manière du champ du cygne, c'est-à-dire en beauté. Par exemple, pour parler des villes, puisque c'est notre sujet central, eh bien, Haussmann, par exemple, modifie Paris d'une manière très importante, parce que le Paris que nous voyons aujourd'hui est en fait un Paris essentiellement moderne, on peut dire, dans l'acceptation de ce terme. C'est-à-dire le Paris que nous voyons, c'est le Paris du 19e siècle, tout en ayant justement la structure de la ville ancienne, de la ville médiévale, qui n'est pas visible d'une manière, on peut dire, immédiate, mais qui existe et qui fait certainement la richesse et le mystère de cette ville qui est admirée et qui a été le modèle direct pour d'autres villes dans le monde, en tout cas en forme d'urbanisation, et qui aussi fascine toujours les touristes du monde entier. Donc ce Paris Ville et Lumière, il est fait justement de cette habile superposition qu'a su faire Haussmann entre la ville ancienne qui existe dans les cours, dans certains quartiers, et la ville que l'on peut voir et qui est une ville moderne. Donc, il s'agit en cela d'une préfiguration de cette double identité qui va être le passage d'une civilisation à une autre. Donc, rappelez-vous ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a d'une part la civilisation de transformation du territoire, et puis il y a une forme qui va être plus moins radicale. Alors on peut employer des termes moraux, moins agressifs, etc. C'est pas tellement ça, je pense. En tout cas, c'est une autre manière de voir le monde et d'avoir un rapport avec notre territoire. Et quand je dis le territoire, c'est à la fois évidemment la terre, à la fois le relief, mais aussi la nature et le monde végétal et le monde géologique qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui, d'un mauvais mot traduit de l'anglais qui est environnement, mais qui constitue les milieux. Donc aujourd'hui, nous avons basculé dans une autre vision du monde où ce ne sont plus ces transformations qui sont l'essentiel de ce que les hommes font et admirent, et nous sommes passés dans une inversion où ce sont justement le sol, le territoire et le milieu qui paraissent les choses les plus importantes. Donc ce n'est pas une grande découverte, c'est simplement cette continuité qui existe entre tous les humains et que nous ressentons chacun à nous-mêmes dans ce désir d'à la fois contradictoire, comme il est un désir de voyager, comme il y a un désir aussi de rester au même endroit. En fait, c'est toute la dualité qui est le propre de la nature humaine, qui est faite d'un désir insatisfait, et ce désir qui crée à la fois les ouvrages et à la fois les progrès, les inventions, qui crée la beauté de l'art, qui crée aussi la violence, qui crée les guerres, et certainement, on peut trouver comme explication au conflit, aux guerres, justement, le conflit entre ces deux visions du monde qui sont à la fois antinomiques, mais qui sont à la fois liées l'une à l'autre, comme je vous disais, puisque nous les portons à nous-mêmes et toutes les sociétés les portent. Alors je vais émettre l'hypothèse que cette dualité, il n'y a pas un en même temps et une position intermédiaire, il y a simplement une alternance, sachant que les positions extrêmes sont des positions totalitaires, et c'est certainement l'explication que l'on peut donner au XXe siècle, c'est justement d'avoir pris des positions totalitaires, c'est-à-dire de créer des utopies qui ne peuvent exister que sans aucune remise en cause, puisqu'elles détiennent une vérité totale, absolue, et donc, de ce fait, l'utopie ne peut reporter sur les autres la faiblesse de ses réalisations et la non-réalisation de l'utopie ne peut être attribuée qu'aux gens qui ne sont pas dans l'utopie. Donc de ce fait, les déportations, les massacres vont se justifier puisqu'en fait, on ne peut pas remettre en cause l'utopie, mais on ne va faire que faire reporter la responsabilité sur les autres. Donc ça sera la guerre, à la fois la guerre civile interne avec les déportations, le goulag, la Shoah, et ça sera aussi les guerres entre nations sur les prétextes qui sont faits dans cet inconscient. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un problème qui est assez complexe, puisque nous y sommes dedans. Donc ce 19e siècle qui finit en beauté, mais qui se finit, et qui, au 20e siècle, annonce une période qui va être différente, notamment la fin des villes, puisque il n'y aura plus des villes telles que la ville Lumière qui va servir de référence. Et j'avais expliqué les centres-villes en 68, comment on essaie de refaire vivre un mythe de la ville ancienne et de voir aussi la catastrophe qui se passe avec cette politique dans tous les centres-villes qui sont vidés de leurs activités, ségrégation population, exactement l'inverse de ce qui avait été annoncé, et aujourd'hui, avec les Verts, une espèce de délire, on peut dire, d'oxymore, où on essaie à la fois de promouvoir la densité, tout en refusant cette densité, puisqu'elle va... Elle va impliquer un mode, par exemple, architectural, totalement mécanisé, d'ascenseur, etc. Donc, c'est le propre même de l'oxymore, comme on veut construire en bois et on ne veut pas couper les forêts. Bon, voilà, c'est-à-dire, on se piège dans une double opposition complètement irréalisable. Donc aujourd'hui, je crois que nous payons quelque part ce manque de lucidité par rapport à ces illusions qui encore sont celles du 19e siècle, mais que lui avait su résoudre. Donc ce 21e siècle, il naît à la fois de cette mutation profonde. Il n'en a pas, je pense, vraiment la conscience, mais en tout cas, nous sommes passés dans une civilisation de fluidité orale qui est celle de la communication des peuples, par exemple africains, de l'Afrique ancienne. Et aujourd'hui, on observe dans ces pays le mouvement inverse. En fait, nous sommes dans une complexité de reconfiguration des sociétés, et je pense que un des grands malaises de l'époque, c'est justement d'être dans cette période de mutation, parce que nous n'avons pas les repères, ou si nous en avons, mais en fait ils sont contradictoires entre, par exemple, la ville dense minérale qui modifie le territoire d'une manière radicale, et puis un rêve de forêt, de ville verte, avec les animaux qui sont dedans. Évidemment, ce sont des choses différentes. Et encore une fois, je vous le disais, c'est un oxymore. Donc, on va faire une pause musicale et nous allons continuer après.
You know what they do to me.
Oui, je me doute que pour la deuxième partie de l'exposé, vous allez vous poser la question de savoir comment sortir de ce dilemme entre les deux formes de société et ce que je vous ai raconté sur le siècle de fureur du XXe siècle et sur nos interrogations du XXIe siècle. Entre, d'une part, la notion de progrès et d'autre part la notion de déclin. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que il faut évacuer d'une part le vocabulaire, on peut dire, moralisateur, puisqu'il s'agit de choix qui sont factuels, qui sont des choix de société, et je pense que les termes de vertu, ou par exemple dans les oxymores comme la densité douce, des mots comme doux ne sont pas très adaptés pour faire des choix d'urbanisme, des choix de PLU, les documents d'urbanisme et des modes de vie. Donc ce que l'on peut regretter aujourd'hui par rapport aux périodes précédentes, et sans faire de la nostalgie du « c'était mieux avant », c'est l'absence de débats dans les domaines qui nous concernent, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'architecture. L'absence de plans, de dessins, de choses qui sont objectivables, au sens propre du terme, et que l'on peut commenter, débattre, qui sont des sujets sur lesquels on peut quantifier ce qui est raconté. Alors, l'avantage justement de ce qui est montré, dessiné, planifié, c'est que c'est le fondement même d'un débat démocratique et on peut avoir des choix et des options. Et quand on parle par exemple de densité, c'est positionné dans l'espace et on voit très bien la distance entre les immeubles, la hauteur des immeubles et le nombre de mètres carrés de population aussi ou d'activités qui peuvent découler de ces choix et des choses qui sont réelles. Alors on a à la fois aujourd'hui des discours la plupart lénifiants qui vous promettent le bonheur absolu, ce qui évidemment est forcément une imposture, et de notre côté vous avez des images très séduisantes, mais qui ne sont que des images, et on n'a pas justement ce qui est réel et ce qui est quantifiable. Donc entre ces deux de manière de faire, donc ce discours lénifiant et moralisateur et d'autre part les images de séduction, on n'a pas justement le cœur même de ce qui pourrait être les choix, le débat et d'ailleurs l'action. Donc tout ça est confondu dans des concours d'architectes et des images, on ne sait plus très bien qui fait quoi, et avec une administration, et j'en ai parlé déjà, et je ne vais pas revenir sur cela, qui a pris le pouvoir sur les élus, avec notamment le vocabulaire professionnel, qui devient incompréhensible pour les populations, incompréhensible pour les élus, qui font semblant, comme dans l'histoire des beaux habits de l'empereur, pour ne pas être des imbéciles qui ne voient pas qu'il n'y a pas d'habits, ils font semblant de comprendre des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, voilà la situation qui me paraît être néfaste aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que les choix fondamentaux sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que nous avons d'une part une ville qui modifie le territoire d'une manière radicale, avec une certaine densité de bâti, pas forcément d'ailleurs une densité en hauteur de population, mais en fait qui crée un paysage totalement maîtrisé pour elle-même. C'est le cas des villes anciennes, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'est le sol dessous. On n'a pas de perspective sur la nature. Et puis, un autre modèle qui serait beaucoup plus naturel et différent. Alors, soyons bien clairs, je ne vous dis pas quel est mon choix, parce que d'ailleurs, je n'en ai pas, et je pense qu'il y a des qualités dans nos villages bien minéraux de notre Occitanie et d'ailleurs d'autres pays et qui sont des lieux de tourisme et d'admiration. Et puis aussi, c'est vrai que la nature, les parcs, les avenues plantées, les jardins sont quelque chose aussi d'agréable. Donc on peut penser soit qu'on fasse des modèles alternatifs, mais l'oxymore qui chercherait à faire les deux à la fois, alors je tiens à le préciser. On n'a jamais dans une radicalité absolue. Il n'y a pas une ville totalement minérale, même si, par exemple, des jardins dans nos bastides sont cachés de la vue des gens, mais il y a toujours des allées de platanes, il y a toujours des jardins que l'on va découvrir avec de la fraîcheur. En fait, il y a toujours cette dualité. Donc, on n'est jamais dans un monde radical, si ce n'est que dans des éléments qui vont être des morceaux d'architecture, mais pas d'une manière complète. Donc, la ville totalement verte avec les animaux qui se promènent, etc., est une utopie, et la ville totalement minérale, qui serait une sorte de prison panoptique, est aussi un extrême qui n'est pas du tout souhaitable. Donc, nous nous trouvons avec des choix qui peuvent être dans un sens ou dans un autre. Et on peut dire que c'est le débat politique lui-même. En fait, la politique, c'est justement la manière dont les satisfactions de groupes antinomiques, et on peut dire même de cette dualité, si elle est exprimée comme telle, qui peut donner, suivant là où on souhaite habiter, des choix pour les populations. Alors, par exemple, une suggestion que je fais, c'est que les lieux dans lesquels on travaille, qui aujourd'hui sont dispersés dans les périphéries, sans planification, parce que tout le monde s'en moque et personne ne cherche à planifier justement toutes ces zones commerciales, industrielles, urbaines où il y a des bureaux. Vous avez qu'à regarder autour de Toulouse et autour de toutes les villes. C'est un grand n'importe quoi parce que chaque ville veut attirer des entreprises et sont prêtes à céder du terrain sans aucune exigence de raccordement, d'unité de plan, et on a cette espèce de capharnaüm qui est aujourd'hui et dont on ne parle pas beaucoup. Alors, ce n'est pas une fatalité, mais par contre, on pourrait penser que ces lieux, facilement, pourraient être des lieux de densité. Donc, ça serait une solution économique en terrain, économique en voirie, et par contre, si le désir des populations est d'avoir une vie on peut dire villageoise en tout cas, avec des jardins, avec une certaine forme de densité mais sans trop, eh bien, ces choix pourraient être faits parce que on peut dire entre les deux modèles, on pourrait avoir un équilibre, et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que c'est un no man's land se retrouver dans ces zones commerciales et artisanales où il y a les bureaux et les activités qui ont quitté le centre des villes et des villages d'ailleurs, d'une manière générale, pour des raisons qui sont assez normales, parce qu'il y a de l'expansion, il y a des modes de production qui sont différents, il y a des nécessités d'entrepôt, etc. Enfin, la vie moderne. Et donc, on pourrait trouver des modèles différents. Donc, c'est-à-dire une sorte d'inversion de ce qui est actuellement donné. Et puisque, pour reprendre le laisser-faire d'aujourd'hui, c'est effectivement c'est la maison individuelle qui ne peut remplir ce rôle, mais qui est c'est le lotissement avec chacun qui fait sa maison au lieu de penser justement des habitations qui pourraient être groupées et d'une manière beaucoup plus harmonieuse architecturalement et aussi d'une manière beaucoup plus efficace sur un plan communautaire. Donc vous voyez que les possibilités de cette dualité qui admet qu'il y a des avantages et des inconvénients. Donc on ne cherche pas un modèle parfait et on refuse l'oxymore qui veut les deux à la fois. La ville douce et forte de Toulouse dont on avait parlé me paraît être un oxymore, comme la ville dense et verte qui est aussi une sorte du même oxymore de contradiction, ou à moins que j'attende que quelqu'un me la dessine et de m'expliquer comment on fait, ou du moins de me donner une référence qui soit visible, que l'on puisse apprécier, commenter. Bon, ce que l'on voit des fameux écoquartiers, souvent c'est assez plutôt catastrophique, mal réussi. Bon, il n'y a pas des exemples très probants parce que justement, ce sont des oxymores où on a voulu créer des choses qui sont en opposition. Et de ne pas justement voir les possibilités de notre civilisation d'aujourd'hui, de faire ces alternances que l'on peut avoir entre des lieux de travail et de domicile. Et je vous avais dénoncé dans une émission précédente cette imposture qui était la ville du quart d'heure par un fameux Carlos Moreno qui me paraît être un imposteur, mais là aussi, sans dessin, on ne peut pas discuter et on est uniquement sur des paroles et sur des dessins qui sont des choses qui sont fausses. Donc, on va terminer cette émission je resterai sur ces propositions qui sont, me semble-t-il, des choses possibles, mais qui sont en tout cas des ouvertures pour des choix politiques et des choix individuels.